Bonjour Elisabeth Roudinesco.
Bonjour.
Vous êtes historienne, faut-il le rappeler, psychanalyste, et votre dernier essai paru aux éditions du Seuil a pour titre « Soi-même comme un roi », un livre qui vous a demandé trois années d'études, trois années de travail pour étudier ce que vous appelez les dérives des politiques identitaires, qui sont, dites-vous, issues des relectures des études des années 70 sur le genre et la race. Ça fait résonance à l'actualité, au risque d'ailleurs d'en heurter plus d'un. Un mot d'abord sur le titre de ce livre, « Soi-même comme un roi ». C'est donc le contrepoint du livre de Paul Ricoeur, « Soi-même comme un autre », paru en 1990. Est-ce qu'il a donc changé en 30 ans? C'est ce repli identitaire, l'individualisme roi qui a relégué l'alter au second plan. Et pour vous, femme, intellectuelle, de gauche, eh ben, ça n'annonce rien de bon.
Oui, j'ai tenu surtout à lire tous les textes qui s'inspiraient de tous les penseurs, pas seulement français, mais disons Édouard Said, Fanon, Sartre, Derrida, Foucault, je les ai tous nommés, et qui ont, au fond, eu pour conséquence de finir par ce repli identitaire, par nier l'existence d'un grand courant anticolonialiste en France. Voilà.
C'est la relecture de ces textes, et non pas ces textes, hein,
oui.
Qu'on soit bien d'accord.
Alors, pas les textes fondateurs dont ils se sont inspirés, il n'y a pas un once d'identitarisme chez Derrida, Fanon, etc. Il y a un anticolonialiste, c'est-à-dire une critique de la colonisation, souvent violente, rappelez-vous le manifeste des 121, ils ont tous été des anticolonialistes. Et donc, ils sont finalement accusés, tout en étant réinterprétés, j'essaye de le montrer, de pas avoir le droit d'être anticolonialiste, en quelque sorte, puisque aujourd'hui, on rétablit par le biais de ces dérives identitaires une sorte d'idée qu'on doit être assigné à une identité qui n'est pas forcément la vôtre.
Oui, c'est l'assignation identitaire vous reprenez de Michel Serres.
Je suis noire, je suis juive, je suis ceci, je suis cela.
Il y a ce sujet, une histoire qui est assez drôle d'ailleurs que vous racontez, Elisabeth Roudinesco. C'est au cours d'un voyage à Beyrouth et vous parlez avec un patron de presse et là vous vous sentez vraiment assigné à une identité.
Oui, j'ai raconté cette histoire qui est arrivée donc en 2005. C'était la première fois de ma vie que j'ai fini par dire, mais je suis française. Mmh. C'était tellement évident. Mmh. Et c'était pas n'importe quel grand patron de presse. C'était quelqu'un d'extraordinaire. J'aime beaucoup le Liban, j'aime beaucoup Beyrouth. Et quand je suis arrivée, en effet, à cette réception, ce sont des gens des Lumières, hein. Ça n'était pas des obscurantistes. Et il m'a dit, je suis ravie de rencontrer une Roumaine. Et je dis, mais je suis pas roumaine. Bon, donc une orthodoxe. Et j'ai dit, je ne suis pas orthodoxe. Et il m'a dit, mais alors vous êtes quoi? S'engage une discussion où je suis obligée d'expliquer que, voilà, j'avais du côté maternel des Israélites français, des protestants, du côté Israélites français, entre guillemets, du côté de mon père, en effet, juif roumain. Et il m'a dit, mais... j'étais élevée dans la religion catholique, puisque beaucoup de parents juifs élevaient à cette époque leurs enfants pour que ça recommence pas avec. Et donc, à un moment donné, on a éclaté de rire. Un autre s'est mêlé de la conversation. Il m'a dit, bon, ben, d'accord, passons. Vous êtes orthodoxe, athée, plus. Et là, je me suis dit, mais non, écoutez, je suis française. Et j'ai compris là, parce que les tribunaux confessionnels au Liban, il n'y a pas d'État laïque au sens où nous l'entendons, et je me suis dit, mais c'est un cauchemar. Et d'ailleurs, eux-mêmes le vivent comme un cauchemar, c'est un hommage que je leur rends. Et je raconte aussi ma rencontre avec un grand jésuite qui s'appelait Célim Abou et qui me rappelait mon maître en histoire, Michel de Certeau, et qui était un vrai universaliste. Donc, si vous voulez, j'étais là, à front.
Et la séquence est racontée donc au Liban en 2005. L'assignation identitaire, pour reprendre la formule de Michel Serres, elle prend quelle forme précisément aujourd'hui?
Ah ben là maintenant on est dans un excès incroyable. notamment avec les mouvements qui ont repris le terme de race en parlant de racisés, c'est-à-dire qui s'assignent eux-mêmes à la position d'être victimes du racisme et qui s'auto-désignent comme racisés.
Vous réfutez terme de race, de racisé.
Écoutez, et vous vous appuyez sur Lévi-Strauss.
Je m'appuie non seulement sur Lévi-Strauss, mais sur Aimé Césaire. La race n'existe pas au sens scientifique, ce qui ne veut pas dire que le racisme n'existe pas dans la société. Je suis favorable parce qu'on l'est supprimé dans la Constitution. La race n'existe pas.
La race humaine, peut-être.
Ah oui, mais bien sûr, la race humaine.
Après, c'est une question de pigmentation.
Après, c'est une question de pigmentation. Ouais. Voilà. On dit l'espèce humaine, hein, d'ailleurs, pour être bien clair. Donc la théorie des races, elle a été contestée, c'est fini, il n'y a pas de race au sens scientifique. Et en plus, on a des lois qui condamnent le racisme. Alors là, ramener l'identité racisée, sous prétexte qu'on a été victime du racisme, c'est quand même ramener de la race, et ça, je ne suis pas d'accord. Et je suis d'autant moins d'accord que on supprime en même temps ce terme nègre que Césaire avait sorti des cales de l'esclavage,
la négritude de
avec
Césaire.
La négritude pour en faire une culture magnifique, c'est quand même un des plus grands poètes français, et qui lui-même, comme d'ailleurs Frantz Fanon, s'est opposé à cette idée de se raciser. Donc, lui, Aimé Césaire, il a vécu assez vieux pour contester ces mouvements, d'ailleurs, des coloniaux. Il n'était pas du tout d'accord avec ça. Il a vu naître tout ça. Fanon est mort trop jeune. Et aujourd'hui, au fond, toute cette extrême gauche conteste Sartre, par exemple, conteste le droit à des blancs, entre guillemets, d'être anticolonialistes. Donc, il y a toute une dérive. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer. Et comme par ailleurs,
Je vous en prie, terminé.
Comme par ailleurs, la droite ne cesse d'accuser Foucault, Derrida d'être responsable de la décadence de l'Occident, alors que ce sont les penseurs les plus traduits au monde qui font partie du patrimoine, et que c'est amené, il n'y a pas de querelle à avoir aujourd'hui en les accusant de je ne sais quoi. Donc nous sommes entre deux extrémismes. Et c'est ça qui m'a intéressé. Ces deux extrémismes, d'ailleurs, ne sont pas symétriques. On va en reparler.
Juste un mot sur ces thèses racisées, ces thèses décoloniales et leurs dérives enseignées dans les universités, dites-vous. Vous rejoignez donc la ministre de l'Enseignement supérieur avec ses propos qui ont fait polémique il y a 10 jours en réclamant une étude du CNRS. Je voudrais vous faire réagir à l'actualité de ce matin avec ces deux professeurs de Sciences Po Grenoble accusés d'islamophobie sur les murs de l'établissement d'enseignement avec des photomontages collés sur les murs. Les mots fascistes, islamophobie tuent à l'entrée des bâtiments. Les deux enseignants craignent depuis pour leur sécurité et celle de leur famille. Ça vous inspire quel commentaire ?
Il faut rétablir de la sérénité dans les universités. Et c'est certainement pas avec des déclarations d'accusation d'islamo-gauchisme, pas plus qu'avec islamophobie. Dans mon livre, j'étudie les jargons.
Vous réfutez le terme d'islamo-gauchisme.
Non, j'analyse les jargons. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à des listes de phobies qui sont tirées d'ailleurs du vocabulaire de la psychiatrie ? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à parler d'islamo-gauchisme comme on parlait d'hitléro-strotskiste ? Tout ça, ce sont des constructions qui ne désignent pas les vrais problèmes. Il faut rétablir, en effet, de la sérénité. C'est inadmissible des deux côtés. C'est inadmissible que des professeurs soient traités de fascistes. C'est inadmissible que des étudiants soient traités aussi d'islamo-gauchistes. Si vous voulez, je pense que le problème doit se régler par l'autorité des présidents d'université. C'est eux qui ont l'autorité. On ne fait jamais intervenir la police dans l'université pour des débats d'idées, bien entendu s'il y a des violences physiques, oui. Alors maintenant, j'ai regardé ce dossier, tout ça est d'une stupidité terrible. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut maintenant revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire des études sérieuses et pas des polémiques permanentes avec des insultes. Et je ne crois pas que notre ministre de la Recherche ait cherché à rétablir une certaine sérénité en accusant l'université d'être truffée d'islamo-gauchisme. J'enseigne à l'école normale supérieure, j'ai un séminaire d'histoire de la psychanalyse. Je ne suis pas truffée d'islamistes, je vous garantis.
Je précise que le CNRS, à qui la ministre a demandé une étude, a rappelé que le terme, comme vous le faites ce matin, ce terme d'islamo-gauchisme ne correspondait à aucune réalité scientifique et que les présidents d'université ont exprimé leur stupeur. Au passage, est-ce que vous avez l'impression que les macronistes, avec cette polémique, sont en train de chasser sur les terres du Rassemblement national ?
Je ne vais pas accuser comme ça, dans une situation aussi
sans accuser forcément, avoir un sentiment.
Parce que ce qu'on voit surtout, c'est que d'un côté, le président Macron condamne l'esclavage, condamne le colonialisme, a nommé un excellent historien, Benjamin Stora, sur la question de la mémoire. Il vient en effet de reconnaître les tortures dans l'armée française. Et puis de l'autre côté, en effet, on a un ministre qui pense absolument le contraire. Et d'ailleurs, lui-même, à certains moments, téléphonait à Éric Zemmour, ça ne va pas du tout. Donc, je crois, si vous voulez, que je ne vais pas vous dire qu'il fait le jeu de et qu'on fait le jeu de, parce que je suis accusée moi-même de faire le jeu de ceci, de faire le jeu de cela. Mais je crois qu'il y a un manque là de position claire. Et c'est trop électoraliste, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je pense que le journal Libération a bien fait quand même d'alerter sur ce qui risquait de se passer en France au deuxième tour. Oui, on est dans une véritable crise, et cette crise est identitaire. C'est le remplacement des politiques d'engagement collectif strictement, enfin, qu'ont porté le marxisme, qu'ont porté la gauche, qui se sont effondrées. Et on a les politiques identitaires des deux côtés.
À propos de la décolonisation, vous vous en prenez notamment à l'association devenue un mouvement politique, apparue en 2005, les indigènes de la République. Que leur reprochez-vous finalement à ces membres et à ce parti, les indigènes de la République? Leur lecture des études des...
Non, je reproche à Madame Ouria Boutet-Déjà, qui a fondé ce mouvement, de commencer son livre en disant qu'il faut fusiller Sartre et qu'elle préfère l'OAS au manifeste des 121. Ça n'est pas admissible. Voilà. Parce que ça récuse l'idée qu'en France, je le répète, à droite et à gauche, il y a eu un mouvement anticolonialiste. Je vous rappelle le débat entre Clémenceau et Jules Ferry, ils étaient tous les deux à droite et totalement opposés. Et d'autre part, il y a un mouvement anticolonialiste. Donc,
on ne doit pas séparer le combat contre le racisme de celui de l'antisémitisme.
Alors, bien sûr, ça, il ne faut pas les séparer. Et ça a été un drame que j'explique d'ailleurs dans mon livre, quand on a séparé les deux combats, que non, jamais séparés, ni Césaire, ni Saïd, ni Fanon. Et là, maintenant, en effet, on a cette situation dramatique, on a des juifs racistes et des arabes antisémites. C'est épouvantable.
Autre sujet que vous soulevez, Elisabeth Roudinesco, c'est l'individualisme aussi. Vous dites même que nous sommes dans une culture résolument narcissique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, sachant que on sait que Narcisse finit mal, donc on aimerait bien ne pas finir mal nous aussi.
Écoutez, là j'ai étudié la question à partir en effet des textes de Christopher Lasch, de ce qui s'est passé aux États-Unis, surtout pour les théories du genre, pour les études de genre. Oui, on est dans une culture du narcissisme, et les études de genre qui étaient formidables au départ, mais qui avaient plusieurs tendances, que je montre, se sont transformées en assignation identitaire, elles aussi, avec ont récupéré au fond les catégories de la psychiatrie qui avaient été abandonnées, critiquées à juste titre avec la liste des phobies, et puis avec cette « soi-même comme un roi ». S'auto-désigner soi-même comme étant de telle couleur, de tel sexe, gros, autiste, pas autiste, trans, pas trans, cisgenre, etc. C'est cette culture du narcissisme qui a quitté, au fond, les engagements. C'est quelque chose de très mélancolique. Ils ont quitté tous les engagements émancipateurs dont ils se réclamaient, pour des revendications strictement personnelle, et qui finissent, ça finit par devenir insupportable de bêtises.
Et ça débouche sur la haine de l'autre.
Ah, totalement. Mais une haine en spirale, très extraordinaire, parce que on a maintenant des femmes homosexuelles qui attaquent les hommes homosexuels. On a les Ashkenazes contre les... Bon, ça c'est une vieille... Les Ashkenazes contre les séfarades. Il y a la haine de l'autre en permanence. Et c'est une spirale qui ne va pas s'arrêter.
Il nous reste quelques minutes, malheureusement, on va y aller, pardon de vous le dire comme ça, un peu à coup de serpette, mais un chapitre consacré aux identitaires d'extrême droite, nationalistes, suprémacistes, inquiets de la théorie du grand rassemblement, selon l'écrivain Renaud Camus.
Le grand remplacement,
absolument. Renaud Camus, relayé par Éric Zemmour, en quoi Zemmour joue-t-il un rôle essentiel dans la banalisation de cette théorie?
Parce qu'il vend des best-sellers. Parce qu'il est tous les soirs à CNews, parce qu'il raconte n'importe quoi, qu'il a
parce
fait
qu'il
la folie.
Parce qu'il est un relais.
Comment ?
Il est un relais.
Oui. Tout à fait. J'ai évidemment regardé les émissions. Il fait l'apologie quand même du maréchal Pétain, en reprenant cette vieille thèse que Pétain aurait protégé les juifs français et pas les juifs étrangers. On reste quand même sidéré. La vieille thèse du bouclier de Gaulle, le combattant, Pétain, le bouclier. Et puis, quand on lit les livres, c'est truffé d'erreurs à toutes les pages. J'en donne la liste. Donc c'est quelque chose d'incroyable que on est ce genre de polémiste. Je suis pour une liberté d'expression totale, je demande l'expulsion de personne. Simplement, la critique doit être faite.
Enfin, vous décrivez tout de même un marais que vous qualifiez de nauséabond dans lequel Éric Zemmour est rejoint, d'ailleurs, par Michel Onfray. Que reprochez-vous à Michel Onfray? Est-ce que ce n'est pas d'abord d'avoir traité Freud de fasciste antisémite?
Oui.
C'est ça,
Écoutez, c'est une vieille histoire sur laquelle on ne va pas revenir, mais en 2010, il a sorti un livre insensé sur Freud, que j'ai critiqué. Et ensuite, j'ai été, moi, aussi l'objet d'injures à la tête de milices freudiennes internationales. Je crois qu'en 10 ans, on s'est rendu compte de ce que j'avais vu et d'autres historiens avaient vu, qu'en réalité, il y avait dans ce soubassement de revendications des origines territoriales de la province contre Paris, de moi je suis fils de je suis fils de femme de ménage contre les grands bourgeois, et qu'il y avait dans ces revendications identitaires un vieux fond d'expérience. Extrême droite. J'ai pas dit qu'il était extrême droite. Mais il y avait un vieux fond, sans doute inconscient d'ailleurs, et que Freud devenait donc la cible de toute la détestation. Vous savez, dès qu'on dit que Freud est fasciste ou antisémite, c'est un discours d'extrême droite.
Onfray vous accuse aussi d'avoir maltraité Sartre. Là, on touche à vos deux, icônes.
Évidemment, ce que j'avais dit est arrivé. Et il fait partie aujourd'hui de... Alors, chacun est différent, mais il fait quand même partie de cette nébuleuse. Et puis, il y a Jean Raspail aussi, qui est très intéressant, sur la question de la Patagonie. Il y a quand même une grande nébuleuse. C'est pour ça que moi, je suis favorable aux dissolutions de ces mouvements, comme aux dissolutions d'ailleurs des mouvements islamistes radicaux. Il faut intervenir. Il faut intervenir.
Je ne voudrais pas qu'on termine cet entretien sans avoir l'autre face. Contre le déclinisme annoncé, vous écrivez quelques lignes plus optimistes.
Oui.
Où est-ce que vous situez d'ailleurs les portes du salut afin d'échapper à l'enfer que les uns et les autres nous promettent?
Je peux pas, on peut pas faire de prévision en politique. Je suis pour l'imprévisible. On ne sait pas, il faut faire attention. D'ailleurs, Carole le disait encore hier soir à la télévision.
Carole.
On va pas faire des prévisions comme ça à long terme. Je suis pas pessimiste. Je pense que quand même, la démocratie, les mouvements démocratiques qui existent dans tous les pays arabes, tous les mouvements qu'il faut soutenir, que ce soit Hong Kong, que ce soit les pays arabes, tous ces mouvements d'émancipation en Inde aussi, qui s'opposent à tous ces nationalismes, tous ces replis identitaires, oui, gageons qu'il faut les soutenir.
Vous dites quand même que c'est pas parce qu'on déconstruit une notion qu'elle n'existe plus.
Bah évidemment. Non, mais on va être très clair. La notion de race n'existe pas scientifiquement, le racisme existe. Et il faut condamner, bien sûr, le racisme, lutter, tout en disant d'ailleurs que la notion de race n'est pas scientifique, pas plus que tous ces jargons identitaires, en quelque sorte.
Eh bien, on lira tout cela dans votre livre, Elisabeth Roudinesco, « Soi-même comme un roi ». Un essai donc sur les dérives identitaires, ça fourmille d'études, 3 années de travail pour ce livre qui paraît aux éditions du Seuil dans la collection La couleur des idées. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin.